ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler, ouais, les 2 heures. Je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi 20 septembre.
Et aujourd'hui, à l'international, on ira à Berlin, où a été organisé un référendum contre la gentrification, avant de revenir sur la question des ventes d'armes françaises à l'occasion de la crise dite crise diplomatique avec l'Australie.
Au national, on passera sur un sujet qui parle de la répression des gens du voyage, et ensuite un deuxième thème sur l'accident. Malheureusement qu'il n'en est pas un qui a eu lieu à Stein, avec encore un cas de violence policière.
Et au local, nous diffuserons un reportage sur l'occupation d'un gymnase à la Guillotière suite à une expulsion de squat donc, qui a eu lieu jeudi dernier.
Mais tout de suite, c'est l'heure des traditionnels brèves.
Ouais, et aujourd'hui, ce sera que des brèves cool, parce qu'en ce moment, de toute façon, il n'y a que des bonnes nouvelles. Donc voilà, attendez-vous à bien rigoler. Alors, pour commencer, une super info qui nous vient de l'Hebdo des AG, qui se revendique le média digital de référence de la gouvernance et de la communication financière des entreprises cotées. Donc c'est du sérieux. Voilà, donc en moyenne, les patrons du CAC 40 s'augmente de 1,5 million d'euros par an, soit une augmentation de 4 109 euros par jour. Voilà, en parallèle, le salaire minimum, lui, va être augmenté de 35 euros bruts par mois, augmentation mécanique due à l'inflation, c'est-à-dire 1,1 euro de plus par jour. Donc rassurez-vous, le rapport capital-travail est toujours en faveur du capital. On peut remercier pour ça les patrons et leurs larbins, c'est-à-dire le gouvernement et le président français. Autre super nouvelle, la direction de la SNCF, après avoir porté avec le gouvernement le coup de couteau final et fatal contre ce qui restait de public à la SNCF, contre le statut de cheminot, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus rentrer à la SNCF et devenir cheminot. Alors même qu'elle harcèle cette direction en permanence, les syndicalistes combatifs en toute impunité, elle a annoncé la suppression de 3000 postes supplémentaires de cheminots, bien sûr, se rajoutant aux 7000 déjà supprimés entre 2017 et 2019. Petite cerise sur le gâteau, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, l'a annoncé juste avant de rejoindre Macron, venu se pavaner à la gare de Lyon pour fêter les 40 ans du TGV. Macron accueilli par des huées de salariés de la SNCF en colère, salariés qui ont immédiatement été nassés et empêchés de perturber ce défilé de sous-merde, puisque outre Macron et Farandou, il y avait également Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports. Allez, puisque vous voulez encore une bonne nouvelle, allons en Chine ce coup-ci. Connaissez-vous le groupe Evergrande? C'est le premier promoteur immobilier chinois qui s'est depuis plusieurs années diversifié dans de nombreux secteurs de l'économie chinoise. Vidéo, mutuelle de santé, élevage industriel de cochons, club de foot, parc d'attractions, voitures électriques, j'en passe.
Super.
Super, un bon groupe. Donc ce groupe emploie des centaines de milliers de salariés et indirectement des millions via la sous-traitance. Hein, ça marche partout pareil. Bref, un mastodonte de l'économie chinoise. Sauf que, le groupe a une dette gigantesque de 260 milliards de dollars et que depuis une semaine, les marchés financiers asiatiques, entre autres, tremblent devant la probable faillite du groupe. Ça vous rappelle rien ? Lehman Brothers en 2008 aux États-Unis, surendetté, qui ensuite fait faillite et qui entraîne à sa suite une ribambelle de faillites bancaires et d'entreprises provoquant la pire crise économique depuis 1973 voire 1929. Oh, c'est pas comme si on s'enfonçait déjà dans une crise économique plus importante que 2008 à cause d'un petit coquin nommé coronavirus. Voilà, et pour finir, mais ce coup-ci sur une vraie bonne nouvelle, celle-là, on félicite nos camarades allemands qui ont réussi une grosse manifestation antifasciste ce samedi à Leipzig, à l'est de l'Allemagne, où les groupes d'extrême droite allant de Pegida aux néo-nazis pullulent, parfois en collaboration avec le soutien de l'appareil d'État allemand. Ils et elles étaient les manifestants plusieurs milliers, avec un important black bloc constitué pour résister aux nombreux assauts violents de la police allemande, qui était notamment armée de canons à eau, mais aussi de blindés. Il paraîtrait même qu'on a entendu dans ce black bloc des chants en français, scandant « Tout le monde déteste la police ». Eh oui, il ne reste donc plus qu'aux Italiens de scander dans leur manif un slogan en allemand, et la boucle sera bouclée, référence à notre Siamo Tutti antifascisti. Trêve de galijade, bravo aux antifa allemands qui ne se laissent pas faire puisqu'ils subissent une importante vague de répression en ce moment. Certains groupes sont clairement dans le viseur, il y a eu de nombreuses perquisitions à Leipzig et aussi dans d'autres villes de l'Est de l'Allemagne et certains ont même été placés en détention comme à Stuttgart.
Et après toutes ces nouvelles réjouissantes, on passe tout de suite à...
International.
Et à l'international, on part tout de suite à Berlin où a été organisé un référendum contre la gentrification.
Ouais, on est très allemand désormais aujourd'hui. Hein. Alors, petit spoiler. En plein milieu de la campagne pour les élections législatives en Allemagne, un référendum prévoyant l'expropriation de 230 000 logements du parc privé à Berlin aura lieu dimanche prochain. De quoi crisper les acteurs du capitalisme foncier ? La hausse des prix des loyers, la spéculation foncière, les dynamiques de gentrification sont malheureusement, ici aussi, à Lyon, à Berlin et dans toutes les grandes villes capitales capitalistes, des problématiques communes. Reléguer les plus pauvres du centre-ville en dehors vers les périphéries, remplacer des quartiers populaires par des quartiers d'affaires où s'installent de jeunes cadres dynamiques sont devenus une stratégie urbaine depuis longtemps exercée par les promoteurs immobiliers, les investisseurs et leurs relais institutionnels. À Berlin, la question de la gentrification est devenue un front de lutte en soi, massivement rejoint par des milliers d'habitants, d'habitantes et de militants. Il y a deux semaines seulement, c'était 20 000 personnes qui se sont réunies dans les rues de la capitale fédérale pour dénoncer les inégalités produites par la crise du logement. Depuis la chute du mur de Berlin, des immeubles résidentiels entiers de l'Est ont été bradés à des investisseurs de l'ex-RDA. Puis, depuis les années 2000, Berlin est devenu un laboratoire de la gentrification, rendu attractif pour les étudiantes de la classe moyenne avec ses lieux de teuf. Les promoteurs ont valorisé leur parc locatif et du même coup attiré tout un tas d'investisseurs immobiliers. À coup de rachats, de rénovations luxueuses et de hausse des prix des loyers, la ville a carrément changé de visage en 10 ans. Les prix des loyers berlinois ont augmenté en moyenne de 30% rien qu'au cours des 5 dernières années. Et tout ça avec des conséquences dramatiques pour les Berlinois et les Berlinoises dont les revenus restent assez bas comparés à ceux des habitants des autres grandes villes allemandes qui viennent s'installer. Très vite, la massification touristique liée aux compagnies aériennes low cost ont entraîné une airbnbisation de la ville, le développement de nouveaux services, d'hôtels, de restos, l'installation aussi de centaines de start-up branchées. La ville a d'ailleurs atteint un record de fréquentation touristique avec 26 millions de nuitées il y a 4 ans. Face à l'embourgeoisement de la capitale, la lutte dans les Kiez, c'est le nom des quartiers à Berlin, cette lutte a été intense avec des actions d'occupation mais aussi beaucoup d'actions directement ciblées vers des agences immobilières et beaucoup de résidences de luxe. Mais ces luttes ont été violemment réprimées, notamment ces dernières années en ce qui concerne l'expulsion des lieux autonomes comme par exemple l'expulsion du numéro 94 de la Rigaia Straße, celle du bar collectif le syndicat ou encore celle du squat libique. Fiendreise, qui donne à chaque fois lieu à des énormes batailles rangées. Tout comme la décision du gel des loyers pour 5 ans de tous les logements construits avant 2014, l'issue de ce référendum dimanche prochain pourrait mettre un frein à l'accélération de la gentrification de la ville. La décision de communaliser les logements, donc prévue par ce référendum, s'attaque avant tout à une douzaine de sociétés, dont les deux plus importantes sont Deutsches Wohnen et Vénovia, qui possèdent 230 000 logements au total sur un parc locatif berlinois qui est de 1,5 million de logements. Si le résultat du référendum peut limiter les dégâts, n'oublions pas que l'institutionnalisation de la lutte contre la gentrification est d'abord le résultat d'une lutte sur le terrain menée depuis des années et que ça sera seulement la pression de la rue qui parviendra à bout des attaques du capital dans nos villes. La gentrification, ni ici, ni ailleurs.
Et pour continuer à l'international, un sujet sur les ventes d'armes de la France à l'international.
Et oui, la semaine dernière, le gouvernement australien a en effet rompu un contrat d'armement et de coopération militaire avec le gouvernement français. Ce contrat, conclu en 2016, était surnommé le contrat du siècle, rien que ça, et devait mener à la vente d'une douzaine de sous-marins dits conventionnels et à près d'un demi-siècle de coopération militaro-industrielle. Le gouvernement australien a finalement préféré se reporter vers des sous-marins nucléaires fournis par le Royaume-Uni, ce qui a déclenché une crise diplomatique bien mise en scène par le gouvernement français, qui a notamment rapatrié son ambassadeur d'Australie. Le ministère de l'Armée a quant à lui déploré, je cite, une décision regrettable et un coup dans le dos, ce qu'on comprend bien puisque ce sont près de 8 milliards qui viennent de lui filer sous le nez. Alors, pas question de nous lamenter sur leur sort, puisque les enjeux de la crise diplomatique entre ces différents pays ne concernent en réalité que les intérêts financiers, militaires et géopolitiques d'États capitalistes et impérialistes. Mais toute cette histoire est l'occasion de se rappeler que la France reste l'un des principaux vendeurs d'armes au monde, puisqu'elle est, elle et ses entreprises se placent à la troisième place du podium des pays exportateurs d'armes, derrière les États-Unis et la Russie. Et en 2018, 50% des commandes émanaient du Moyen-Orient, et 15% d'Asie-Pacifique. Des accords et des ventes qui se font notamment et même principalement vers des États dictatoriaux et autoritaires qui n'hésitent pas à exterminer leur population et à bafouer ouvertement les droits humains. C'est en tout cas ce qui ressort du classement des clients de la France, un classement qui était dominé l'année dernière en 2020 par l'Arabie Saoudite, qui est notamment engagée dans un conflit meurtrier au Yémen. Et des enquêtes et rapports menés l'année dernière avaient permis de montrer que des armes produites par des entreprises françaises telles que Dassault ou MBDA Armement avaient été utilisées pour tuer des milliers de yéménites. Alors même que le droit international oblige les autorités à s'assurer que ces armes vendues ne sont justement pas utilisées contre des civils. Puis dans ce classement viennent l'Inde, dont on connaît la politique répressive contre les populations musulmanes, puis le Qatar. L'Égypte, elle, est en quatrième position. Elle qui a notamment acheté des avions Rafale en 2015 pour un contrat de 8 milliards d'euros. Or, un rapport d'Amnesty affirmait l'année dernière avoir réuni de très nombreux éléments prouvant que les forces de sécurité égyptiennes ont recours, lors de la décennie 2010, à des blindés de type MIDS et Sherpa, fournis notamment par des entreprises françaises pour écraser l'opposition. Bref, que du beau monde. Et parmi les grandes entreprises françaises qui profitent de ce marché lucratif, on peut bien évidemment citer le groupe Dassault, longtemps dirigé par l'homme d'affaires et politique Serge Dassault, condamné à plusieurs reprises pour blanchiment d'argent et corruption, ou encore Airbus, Thales, Naval Group, ou encore Werner Caron à Saint-Étienne. Une frénésie qui est partagée avec le même enthousiasme criminel de l'extrême droite à la gauche gouvernementale. En 2015, le ministre de la Défense socialiste Jean-Yves Le Drian s'était ainsi vanté d'avoir réalisé le chiffre historique de 17 milliards d'euros d'exportation d'armes dans le monde. Et aujourd'hui, c'est la ministre des Armées Florence Parly qui justifie la position française par ses intérêts stratégiques, cette position d'exportation étant, je cite, « vitale pour notre diplomatie ». Qu'elle aille le dire au peuple opprimé qui meurt sous les coups de leur gouvernement. Bref, dans toute cette affaire, ce qui est regrettable, comme dans tous les cas de vente d'armes entre États, ce n'est pas que la France ait perdu le marché, mais tout simplement que ce marché existe. À nous donc de lutter contre la militarisation de nos vies et du monde, et contre cette économie militaire qui ne profite qu'aux États capitalistes et impérialistes.
Et maintenant, on va faire une petite pause musicale avec le rappeur Nasty One et son morceau « Le reflet de nos vies ».
village closé, marre de squatter les bancs de la rue, je vais en musée car la vie est une pute, les ordures, j'ai hésité avant de dormir dedans, ma chance est séparée comme une étoile filante, la pente vers glace et faux des semelles en crampons, je me cramponne à la paroi pour viser l'horizon, l'attente est longue, la queue pour le bonheur est infinie, indéfinie, et mon statut pour l'avenir, le venin a contaminé beaucoup de frères, tu sais, je me suis noyé dans la taille, la haise m'a dit, bon, tu sais, qui sait, est-ce une passade ou le reflet de ma vie, ma vie ne fait que commencer, elle cicatrice, déjà que c'était pas gagné, je vois l'issue qui se referme, à terme j'aboutirai mes projets quitte à me faire la guerre, la paix, j'aspire au calme mais pas dans un canapé, la pêche, va falloir m'en munir même si j'ai un moral en paix.
Le miroir se brise quand on veut voir le reflet de nos vies, mais celui-ci n'est pas très beau si tu veux notre avis, aigri, on voit le monde, tous ces mauvais angles, voici une vérité à te ranger les
yeux. Le miroir se brise quand on veut voir le reflet de nos vies, le vice nous a tiré, on se voit dans ses abîmes, abîmé par la routine et ses galères incessantes, ouais c'est ça, Jidma et Mehdi sur un truc fracassant.
Toi tu fixes les limites, moi je milite pour redresser l'art, je pourrais en rester là, mais c'est la course au pétrodollar, la vie se met au JO et j'aurai ni l'or ni l'argent, je suis pas l'objet convoité, l'homme cherche un marchand surmené, pas le temps de boire notre café au lit pour adoucir mes idées nord, je me suis mis au café au lait. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? La vie qu'aimante, loin d'un de 5, elle en veut 10 de plus. Je me fous d'être artiste controversé. Je passe au stabilo, les lits de sang qu'on a trop versé. Reflet de nos vies est aussi flou qu'une photo mal prise. Quand je suis né, le doc m'a dit la chance n'est pas comprise. Quel accueil, mais j'ai dû grandir avec ça. À ma gauche, le mépris, à ma droite, les propos vexants. Nico s'appuie sur nous, car il sait qu'on a bon dos. Pour être correct, il n'est pas né dans un papier cadeau.
Le miroir se brise quand on veut voir le reflet de nos vies, mais celui-ci n'est pas très beau si tu veux notre avis. Aigri, on voit le monde, tous ces mauvais angles, voici une vérité à te ranger les yeux.
Le miroir se brise quand on veut voir le reflet de nos vies, le vice nous a tiré, on se voit dans ses abîmes, abîmé par la routine et ses galères incessantes, ouais c'est ça, Jidma et Mehdi sur un truc fracassant.
Le miroir se brise quand on veut voir le reflet de nos vies, mais celui-ci n'est pas très beau si tu veux notre avis. Aigri, on voit le monde, tous ces mauvais angles, voici une vérité à te ranger les yeux.
Le miroir se brise quand on veut voir le reflet de nos vies, le vice nous a tiré, on se voit dans ses abîmes, abîmé par la routine et ses galères incessantes, ouais c'est ça, Jidma et Mehdi sur un truc fracassant.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est toujours le Canu Info du lundi 20 septembre.
Et on passe tout de suite.
C'est pas le bon jingle qui est préparé.
Au national. Avec un premier sujet sur ce qui s'est passé à Stain. En banlieue parisienne.
Ouais, alors, vous avez peut-être suivi cet été, ça avait fait un peu de bruit dans les médias. Donc à Stain, en Seine-Saint-Denis, dans la nuit du 15 au 16 août dernier, trois baqueux en civil, bien sûr, sans brassard, ce qui est illégal, donc sans moyen de les identifier, tentent de contrôler un véhicule. Le conducteur Nordine, lui, tente de dégager son véhicule. Et en à peine quelques secondes et sans sommation, 8 coups de feu sont tirés par deux des baqueux en direction du conducteur. Pas du véhicule, du conducteur, qui est touché, lui, le conducteur, de plusieurs balles, 7 pour être précis, et ensuite transporté à l'hôpital en urgence absolue. Sa passagère, puisqu'il y en avait une allongée à l'arrière, est également touchée d'une balle et dans un état critique. Problème, ce pourrait-on se dire, pour les flics à ce moment-là, la scène est filmée et largement relayée par les réseaux sociaux. Sur le coup, et grâce à la vidéo, l'affaire prend un tournant médiatique et la préfecture décide de placer en garde à vue deux des trois policiers pour tentative d'homicide volontaire. Jusque-là, ça paraît à peu près logique. Eux, bien sûr, se justifient de l'argument habituel de légitime défense dont les policiers se servent comme d'un permis de tuer. D'ailleurs, petite parenthèse, depuis plusieurs années, le nombre de situations dites de légitime défense pour les flics, leur permettant de tirer et de tuer, est en augmentation. La dernière en date, la loi sur la légitime défense, étant de 2017. Donc, ce nombre de situations ne fait qu'augmenter. Fin de la parenthèse. Donc, les flics placés en garde à vue finissent naturellement, comme souvent, par être relâchés malgré la vidéo accablante suite à une, vous imaginez, très très lourde enquête de l'IGPN, leur collègue. Nordine, lui, a une autre version. Il explique qu'il a cru à une agression, voyant trois hommes en civil tentant d'immobiliser son véhicule. Il raconte, je le cite, « Je comprends pas ce qu'ils me veulent. Comme je vois pas de brassard de police, je ne pense pas à eux. J'ai cru que c'était des voleurs, des agresseurs. Ils n'ont pas crié « police ». Tout ça étant confirmé par la vidéo. Eh bien, figurez-vous qu'après s'être pris sept balles dans le corps par des baqueux non identifiables qui ont tiré sans sommation, qui auraient pu tirer dans les roues pour immobiliser le véhicule, mais qui ont préféré tirer sur le conducteur, eh bien c'est lui, Nordine, qui a été convoqué au tribunal ce vendredi 17 septembre pour violence volontaire contre personne dépositaire de l'autorité publique. Le procès a finalement été reporté au 19 novembre. Mais Nordine risque de la prison ferme pendant que les baqueux, eux, sont toujours en exercice et non plus qu'une simple information judiciaire pour violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique qui ne débouchera probablement sur rien ou presque, comme d'habitude. L'impunité policière a encore de beaux jours devant elle. Si vous voulez voir l'interview filmée, une interview non filmée mais écrite et détaillée, pardon, eh bien c'est sur le site www.bondigblog.fr en lien avec le comité Adama Traoré.
Et on passe maintenant à la répression des gens du voyage.
Oui, une répression qui continue avec notre président Emmanuel Macron qui a profité du Beauvau de la sécurité la semaine dernière pour durcir encore la répression et la stigmatisation contre les personnes dites gens du voyage. Lors du discours de clôture de ce Beauvau de la sécurité, il a en effet annoncé l'élargissement de l'amende forfaitaire au délit d'occupation illicite de terrain par les dits gens du voyage, et ce, dès le mois prochain, en octobre. Objectif affiché par Emmanuel Macron, je cite, « répondre à des situations inacceptables ». Par contre, que ces personnes se retrouvent sans espace pour vivre dans des conditions dignes et voient leurs conditions de vie sans cesse se dégrader n'est pas considéré comme inacceptable par notre président. Et ce, alors qu'au même moment que la clôture du Beauvau de la sécurité la semaine dernière, un rapport de l'Observatoire pour les droits des citoyens itinérants, l'ODCI, une ONG accompagnant les voyageurs, venait rappeler et documenter l'exclusion sans fin dont sont victimes ces personnes et communautés en France. En effet, les règles d'urbanisme étant très strictes concernant les résidences mobiles, les citoyens itinérants ne peuvent presque jamais louer ou acheter un terrain en dehors des aires d'accueil et doivent se masser dans ces zones. Le rapport souligne ainsi que les voyageurs n'ont pas le choix de leur lieu de vie, ils ne peuvent s'installer que dans les aires d'accueil, où le coût des fluides est en général plus cher que pour le reste des habitants et habitantes d'une même commune, et, contrairement au reste de la population, ils peuvent être coupés à tout moment, y compris pendant la trêve hivernale. Sans oublier que ces emplacements sont souvent loués très cher, environ 300 euros par mois, auquel s'ajoute une caution d'un montant équivalent. L'OCDI donc, s'appuie également sur les travaux du juriste William Acker, qui estime que sur les 1000 aires d'accueil recensées en métropole, près de 80% sont éloignées des zones d'habitation et 60% sont situées à proximité directe d'installations polluantes ou nuisibles. La durée de vie de ces personnes est d'ailleurs très largement inférieure à celle de la population française globale, et on se souvient que lors de l'incident de l'usine Lubrizol à Rouen il y a maintenant 2 ans, les habitantes et habitants d'une aire d'accueil située à une centaine de mètres avaient été parmi les principales personnes touchées. Alors pour Nara Ritz, qui est coordinateur à l'ODCI, l'État cherche tout simplement à mettre les voyageurs dans une situation d'illégalité, tout en laissant les mairies déroger à certaines lois. Il affirme ainsi qu'à aucun moment, ni le président ni personne ne se questionne sur le comportement illégal des communes qui ne respectent pas leurs obligations. Il en va de même d'ailleurs pour les départements, dont 82% sont sciemment hors la loi et qui ne font que gérer des flux tout en ignorant la question du logement et des besoins des personnes. Ces obligations, ce sont celles de construire des aires d'accueil pour accueillir les gens du voyage, des aires qui sont également pour l'État une manière en fait de fixer et de contrôler ces populations. La loi Besson, qui impose depuis 1990 la mise à disposition d'aires d'accueil dans les communes de plus de 5000 habitants, sous couvert d'humanisme, prive les personnes de choisir librement leur résidence et les relègue souvent sur des terrains dont personne ne voudrait, dénonce encore Nara Ritz. Le rapport finit par quelques recommandations, notamment de dresser un état des lieux du logement des voyageurs et de leur diversité de situation, également l'abrogation de la loi Besson, qui est la base de politiques ségrégationnistes et prive les personnes de leur choix libre de résidence, et enfin de reconnaître la caravane comme un logement, ce qui reviendrait à assurer un accès à l'eau, à l'électricité, mais aussi au droit au relogement et au logement opposable. Bref, autant de moyens de remettre en cause la perpétuation d'un urbanisme et d'une juridiction répressive qui est faite avant tout pour écœurer les gens du voyage et leur faire abandonner leur mode de vie.
Alors, juste parce qu'on a le temps, il s'était barré un petit peu loin, je vous mets quand même le jingle national. Allez.
National.
Et voilà, il est beau ce jingle.
Ouf. Et puis tu vas pouvoir enchaîner avec une petite chanson de pète.
Bien sûr.
Maintenant, on écoute la rappeuse Rature avec Pissenlit.
Il y a gosse d'un mec, il y a gosse d'un mec, il y a gosse d'un mec, il y a gosse d'un mec.
Amatomic Reduction.
Il y a gosse d'un mec, il y a gosse d'un mec, il y a gosse d'un mec, il y a gosse d'un mec. Avec mes copines, on hâte de piloter le jet, pour ça, pas besoin de minauder. Marqué sous ma parka, je me suis cambré pour un high kick. Aïe aïe aïe, tu l'avais pas vu venir. Va que va, j'effacerai vos sourires. T'es tenace, mais je suis bien pire. La menace, elle vient d'en bas. Au sang, j'ai vos ruines, éclabousse vos principes. Je pousse un soupir de plaisir. Niquer l'état, braquer la banque. Pousser dans le tas, et que vivent les banques. Et que vivent les banques, et que vivent les banques.
Les gosses et d'un mec, les dagos 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 et d'un mec.
Torpeur, je prends ma part. Ambiance story dans le lit. Sous un torrent de fuite, je ferai bouffer le pissenlit. Par la racine, ouais, par la racine.
T'as besoin d'un couteau suisse pour trouver mon clitoris. Rejoins-moi sur la piste, tu seras si je t'autorise. J'ai jamais tort, sauf quand je me trompe. Avec mes copes, on ira manger le monde. On ira manger le monde, on ira manger le monde. En attendant, je tourne en rond dans un 3 mètres carrés. C'est mieux que 9 mètres carrés. M'attends derrière eux, ils tombent. À t'en rendre taré, à t'en rendre taré.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi 20 septembre.
Et on passe tout de suite
local.
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 Voilà, donc on passe au local avec une introduction d'ailleurs qui nous est faite par un de vous deux.
La semaine dernière à Lyon et plus précisément à Fézin a eu lieu une évacuation policière assez massive et musclée du squat de Fézin. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le jeudi 16 septembre, au matin, à 7h30, on voit débouler 15 camions de CRS, 15, je dis bien, pour 15 camions, c'est-à-dire à peu près 180 gendarmes pour évacuer un squat. Pour, évidemment, selon la préfecture et les policiers présents, mettre à l'abri et proposer des solutions d'hébergement. Évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque seulement 4 familles ont été mises à l'abri et toutes les autres personnes ont été en fait remises à la rue. Suite à ça, les personnes qui n'ont pas trouvé donc de solution d'hébergement ont décidé de rendre visible leur situation et de faire une action d'occupation publique dans la foulée le lendemain, le vendredi, et en occupant un gymnase, le gymnase Clémenceau qui est à la Guillotière. pour comprendre et pour avoir un petit retour sur ce qui s'est passé pendant deux jours, on a un petit reportage à vous faire écouter.
Qui va bientôt partir. Alors, il a été diffusé aussi au Canu Info du vendredi, mais on vous le remet, puisqu'on imagine que vous n'écoutez peut-être pas les deux Canu Info, ce qui est très très mal.
La situation, c'est que les habitants du squat de Faisin, du coup, qui est un squat d'habitation qui existe depuis février 2020, qui était une ancienne école qui avait été évacuée parce qu'elle était trop proche de la raffinerie et qui abritait 250 personnes, en gros, là, depuis l'ouverture, a été expulsée ce matin. Il y avait eu une décision de justice au printemps dernier et le squat était expulsable depuis le 7 juillet. C'est la propriété totale, je ne sais plus si je l'ai dit. Et en gros, on a appris hier par une fuite d'infos que l'expulsion était pour ce matin. Et c'est ce qui s'est passé en effet. Et ça a été une très grosse opération parce qu'il y avait une vingtaine de camions de police, CRS, enfin toutes sortes de brigades quoi, qui sont arrivés à 8h du matin. Il y avait déjà les soutiens sur place. Parmi les nombreux policiers qu'il y avait ce matin, il y avait aussi la PAF. Qui devaient probablement chercher des gens en situation qui auraient justifié de les embarquer. Mais ils n'ont trouvé personne parce que la plupart des personnes qui étaient en danger de ce point de vue-là étaient parties. Il y avait donc plein de sortes de police, des gens de l'OFI, des gens de la DDCS. Et ils ont regardé leur liste et en gros, ils ont amené quelques familles dans les... Ils ont amené quelques familles dans un car qu'ils ont emmené à la caserne Chabal, qui est en gros un centre d'hébergement assez pourri. Et toutes les autres personnes n'ont pas été relogées, donc elles se sont juste retrouvées à la rue avec rien du tout, du tout. Et du coup, les gens qui n'ont pas été relogés, aidés par des soutiens, se sont installés dans un gymnase depuis 16 heures en gros. Et là, la police est en train d'intervenir tout simplement, malgré la présence d'élus qui ont un peu fait comme si elles allaient... Enfin, un peu au moins comme si elles comprenaient la situation, quoi. Du coup, il y a en gros une trentaine de personnes qui se sont retrouvées là dans des conditions assez variables, des familles et des personnes seules. Sachant que ces 30 personnes ne sont pas du tout représentatives des dizaines de personnes qui sont juste parties de Faisin hier ou dans les jours qui ont précédé l'expulsion. Et on ne sait pas où elles sont, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont pas relogées du tout.
Au bout de 3 heures du coup d'occupation et d'encerclement du lieu par plusieurs brigades de police, on est arrivé à un premier contact pour formuler des négociations. De leur côté, leur proposition initiale, ça a été de loger seulement la famille avec enfants et pour les personnes, pour les jeunes gars sans famille, de la seule solution qui avait été donnée, c'était d'accepter deux fois 45 jours à condition qu'ils signent un départ volontaire dans leur propre pays. Donc c'est une manière pas du tout délicate de les expulser. Très vite, les gars ont refusé évidemment les termes du contrat puisqu'ils sont venus ici, c'est pour, pas pour retourner à leur pays. Et on a proposé une contre-formulation de la négociation qui était un relogement du coup de tout le monde, tout simplement, avec un délai négociable. Et la famille, de son côté, a accepté la proposition de relogement immédiat. Sauf qu'en plus, on a exigé dans les négociations qu'il y ait au moins deux familles qui correspondent moins au leur schéma, c'est-à-dire une femme enceinte avec son mari, avec lequel elle n'a pas encore eu de mariage officiel, et sa cousine, qui n'était pas sur les lieux. Et en plus, on proposait un couple à la prise en charge, et ça, ça a été accepté du point de vue des gars. Ils ont au début décliné toutes proposition et toute possibilité de proposition d'hébergement. Et la dernière démarche de la négociation, ça a été de décrocher un rendez-vous pour négocier une vingtaine de personnes en demande d'asile pour trouver une place d'hébergement en CADA. Donc du coup là on a négocié pas une date de rendez-vous mais un canal de prise de contact pour négocier un rendez-vous qu'on aura donc à préparer avec les demandeurs d'asile qui étaient sur place et ceux qui n'étaient pas sur place ce soir mais qui étaient en soutien au lieu. Alors comme interlocuteur on a eu la DDCS qui est donc en charge du logement et qui du coup voulait complètement se dissocier de l'OFI qui elle est censée justement héberger les demandeurs d'asile. Et donc c'est pour ça que sa ligne c'était non, nous on héberge que les familles, ce qui est faux parce qu'ils ont comme mission un hébergement inconditionnel, peu importe les statuts. Et ce qui s'est passé ce matin à l'expulsion, toutes les personnes seules n'ont pas été, même demandeurs d'asile, n'ont pas du tout été hébergées. Donc voilà, on espère qu'au moins, en fait, juste faire respecter la loi, quoi, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile doivent être hébergés dans des CADA, quoi, tout simplement. C'est quand même. C'est pour ça que c'est assez frustrant d'aboutir à ce type de négociation. C'est-à-dire qu'on part d'un tel manquement de la loi qu'en fait là on se contente juste à rétablir le strict nécessaire, mais qui est tellement loin des revendications qu'on aimerait porter, c'est-à-dire. Papier ou pas papier, et un hébergement pérenne et digne, que c'est une victoire un peu amère quand même. Dernier terme de la négociation, c'était plutôt notre sécurité à tous et toutes, parce qu'il y avait quand même différents statuts, différentes vulnérabilités dans les personnes présentes face à un contrôle de police potentiel. Et on a réussi à obtenir une sortie collective sans contrôle d'identité. Et donc ça a marché et ça quand même, on est content.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info du lundi 20 septembre. Vous venez d'écouter un reportage sur l'occupation d'un gymnase à la Guillotière qui a eu lieu jeudi suite à l'expulsion d'un gros squat à Fézin où une bonne partie de ses habitants n'avaient pas été relogés.
Oui, peut-être petite précision sur les différents cibles qui ont été employés. L'OFI, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc eux, ils ont effectivement en charge de loger surtout les demandeurs, demandeuses d'asile, de leur trouver une place d'hébergement. Et la DDCS, c'est la Direction départementale de la cohésion sociale. Et là, c'est carrément tout l'organisme qui s'occupe du logement social en général et qui est censé faire appliquer la loi que tout le monde a le droit à avoir un logement. Voilà. Bon, après, sur ce qui s'est passé à Fézin et à l'occupation, elle est quand même, c'est représentatif d'une situation beaucoup plus globale, surtout dans le département, dans le Rhône, où il manque en fait 10 000 places d'hébergement. Donc voilà.
Et puis, on va finir cette émission, puisque ce sera une courte émission, par le traditionnel
agenda. Et avec, on commence par du cinéma. Ouh, avec demain.
C'est culture, ce soir.
Ouais. Plein de culture. Il y aura de l'expo aussi. Demain, donc, l'ouverture de la 6e édition du Festival de cinéma Palestine en vue. C'est un festival dont l'objectif est de présenter la diversité du cinéma palestinien et de promouvoir les réalisatrices, réalisateurs, acteurs, actrices et de soutenir le cinéma palestinien. Et du coup, le festival durera du 21 au 29 septembre et demain aura lieu à 20h la projection du film Entre ciel et terre au Comédia. Un film de la réalisatrice palestinienne Nawa Najjar. Jeudi 23, Sud Éducation appelle l'ensemble des personnels à se mettre en grève contre Blanquer et ses réformes. Le rendez-vous est à 14h à Place Guichard et ça se passe à Lyon.
Et ça va chier.
Et ça va chier. Et, et sinon, il y a... Pardon. Et non, en fait, c'est fini. Je me suis trompé de semaine pour le dernier événement. Désolé. Mais sachez qu'il y a toujours l'exposition Le Militaire et nos institutions qui est toujours en place au bar, notamment de l'autre côté du pont, mais aussi dans la librairie La Griffe et à la maison de l'écologie. Et
n'oubliez pas les manifs de FAF de samedi. Non, il y a trois appels généralement. Donc samedi, il y en a eu un quand même samedi dernier à 14h qui est parti d'Edouard Herriot. C'était les personnels soignants, notamment contre les suspensions d'emploi et de salaire sans avoir droit au chômage qui ont lieu là depuis très, très peu de temps là-dessus. Donc vous pouvez retrouver ces différentes informations sur le site Rébellion, entre autres.
On espère aussi la semaine prochaine peut-être de parler plus précisément des luttes contre les réformes Blanquer avec peut-être des potentiels invités, on verra bien.
Et suspense. Donc nous vous laissons avec les bandes continues pour mieux rejoindre à 20h la douce musique de Blasphème FM.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Eh oui, c'est bien 102.2, c'est bien Radio Canu, la plus rebelle. Dans l'ordre, vous venez d'écouter sur les trois derniers morceaux. D'abord, Issa Djuma and Super Wanyaka Stars, qui vous chantait Wacha Wasame. Et puis après, c'était Omar Suleiman avec Jani. Et à l'instant, c'était Portiched avec Glory Box.
En France, un monsieur chauve-souris.
Mais alors, il existe. À quoi il ressemble?
C'est un type comme toi et moi. Sauf qu'il porte un bas de pyjama.